Bonjour. Il y a 48 ans aujourd'hui, je donnais mon cœur à Jésus-Christ dans une grande salle à Lausanne qui s'appelle la salle, c'est la maison du peuple. Et c'était Raphaël le Gitan, Raphaël Duval qui était venu prêcher l'évangile et là je me suis converti. Ça fera 48 ans ce soir, 1er juin. C'était 21h45 à peu près quand il a fait l'appel. Et je me rappelle toujours, il avait dit, on peut regretter de savoir donner, on peut regretter de savoir marier, mais on peut pas regretter de savoir donner à Jésus. Il cabossait le français comme ça et je dois dire que je regrette pas d'avoir donné mon cœur à Jésus et je regrette pas non plus de m'être marié avec Michou. Et je suis très heureux avec la vie nouvelle que Jésus m'a donnée. Je voudrais profiter de ce grand jour, anniversaire, pour prêcher un message. Ça fait quelque temps déjà que je ne l'ai pas prêché, et je veux le prêcher maintenant, aujourd'hui, parce que c'est un message très important. C'est un message qui concerne le salut. Pas seulement le salut des vivants, mais le salut des morts aussi. Dans les églises, on nous enseigne des choses qui ne sont pas exactes. Et Jésus est en train de rétablir toute chose maintenant, et je voudrais vous enseigner ce qu'il nous a révélé dans ces derniers temps. Nous allons prendre pour commencer la dernière prophétie que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est celle du prophète Malachi. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te prie que tu me remplisses de ton esprit et que tu remplisses mes frères et sœurs qui sont là à l'écoute de ton Saint-Esprit pour qu'ils comprennent quelle est la vérité et qu'ils se mettent du côté de la vérité. Parce que c'est toi la vérité, ça n'est pas une doctrine. Mais nous sommes obligés de passer par les doctrines afin de pouvoir comprendre ce que tu veux que nous comprenions. C'est pourquoi je te prie que tu éclaires chacun et chacune par ton Saint-Esprit. Père, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. La prophétie de... Nous trouvons là dans le prophète Malachi au chapitre 3, verset 24, ça dépend quelle version vous avez, ça peut, si vous avez d'autres versions, ça peut être c'est le dernier chapitre de Malachi, juste avant le Nouveau Testament. Et voilà ce qu'on lit. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, que je lui ai donnée en Horeb pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Ensuite il dit, je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays de destruction. Le jour grand et redoutable de l'Éternel, le Seigneur enverra le prophète Élie. Et cette prophétie nous annonce que le but de la venue de ce prophète Élie serait de faire une chose qui va éviter la destruction totale. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du retour de Jésus-Christ, tous les chrétiens évangéliques le savent, pour l'enlèvement de son épouse fidèle. Et puis viendra la grande tribulation. Là, ceux qui n'auront pas été fidèles vont souffrir d'une façon épouvantable. Et puis ensuite viendra le millénium, c'est-à-dire un règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et finalement, le grand jour où Dieu détruira tout ce qui est à détruire et où il formera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Voilà, jusque-là, tous les évangéliques sont d'accord. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur la venue d'Élie et de ce qu'il doit faire. Le prophète Malachi dit qu'il viendra avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Alors il pense qu'il va revenir, n'est-ce pas, pendant la grande tribulation. Oui, il doit venir aussi pendant la grande tribulation, mais il doit venir avant la grande tribulation aussi, afin que les choses soient rétablies, afin que la terre entière ne soit pas détruite. Le prophète Malachi dit qu'il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des enfants vers leurs pères. Il y a plusieurs interprétations au sujet de ce qu'Élie viendra faire, mais il ne viendra que pour faire une chose qui aura une immense conséquence, celle d'éviter que le pays ne soit frappé de destruction. Le mot « pays » signifie-t-il Israël? C'est une bonne question. Ça dépend des versions de la Bible. Si vous avez la version second, alors c'est marqué pays. Alors on peut évidemment penser que c'est le pays d'Israël. Mais le jour grand et redoutable ne concernera pas qu'Israël. La Bible Storvald traduit « de peur que je ne frappe la terre d'interdit ». La Bible Martin aussi dit « la terre ». La version Tob aussi traduit par « la terre signifiant les habitants du monde ». Il va frapper les habitants du monde de destruction, d'interdit. La Bible John MacArthur fait le commentaire suivant. Ce verset annonce une repentance collective qui permettra d'éviter une destruction totale. De toute façon, le jour grand et redoutable de l'Éternel ne concerne la terre entière. Maintenant, comment Élie va-t-il ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères? Alors là aussi, il y a plusieurs interprétations religieuses là-dessus. Personne, ils ne sont pas d'accord, les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux. Mais il y a une chose que j'affectionne particulièrement, et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Parce que je sais qu'Élie est venu, et je sais ce qu'il a fait. Mon but ici, c'est pas de vous convaincre, je n'y arriverai pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse vous convaincre. C'est lui qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il va vous convaincre que c'est juste. Si votre cœur est bien disposé, évidemment. Si votre cœur n'est pas bien disposé, le Saint-Esprit ne va pas pouvoir vous convaincre. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Mon rôle, c'est juste de vous informer afin que vous le sachiez. Vous savez que dans les églises, on endort les gens avec toutes sortes de choses, mais on ne leur parle pas du rétablissement de toutes choses. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, il est dit que Jésus est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jésus reviendra lors au temps du rétablissement de toutes choses. Aucun eschatologue ne vous parle de ça. Les gens qui s'occupent de parler au sujet du retour de Jésus ne parle pas du rétablissement de toutes choses. Jamais, 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 jamais. Il parle de toutes sortes de signes, mais pardon, jamais au sujet du rétablissement de toutes choses. Mon rôle, c'est de vous informer que c'est vrai, afin que vous ne puissiez pas dire « je ne savais pas ». Élie est venu pour implanter dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, et le cœur des enfants se tourne vers leur Père. Cela signifie que les promesses faites il y a longtemps, quant au salut du monde, Dieu a tant aimé le monde, eh bien, cela doit être implanté dans le cœur des enfants, ces promesses faites au Père, aux anciens, à nos ancêtres. Élie les a implantés dans le cœur des gens d'aujourd'hui. On trouve ça dans le livre Doctrine et Alliance au chapitre 2 et verset 2. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle du livre de Doctrine et Alliance, mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire un cours là-dessus. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous allez chercher dans mes prédications, dans révélationbible.fr. Il y a 9 prédications qui concernent cela. Elles s'appellent la pierre de Daniel. Il y a 9 prédications. Vous saurez de quoi il s'agit en écoutant cela. Aujourd'hui, Élie a implanté dans le cœur des gens d'aujourd'hui des choses très claires, afin que les gens d'aujourd'hui puissent se tourner vers leurs parents, vers leurs ancêtres, afin qu'ils puissent être sauvés et non détruits. Maintenant, je vais vous expliquer comment cela se peut. Depuis que les apôtres de Jésus-Christ sont morts, l'apostasie s'est développée sur la terre et il y a des gens qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu et beaucoup d'abus ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de choses ont été abandonnées, des connaissances ont été abandonnées, cachées, remplacées par d'autres connaissances, des fausses religions se basant plus ou moins sur la Bible, ont entraîné le peuple dans les ténèbres. Et des millions de personnes ont vécu sans jamais entendre le plan du salut offert par Dieu au travers de Jésus-Christ. Des millions. Vos ancêtres, ceux du 15e siècle, du 14e siècle, du 13e siècle, du 12e siècle, du 8e siècle, du 7e siècle, vivaient dans les ténèbres les plus complets et n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ mort à la croix d'une façon correcte. Ils ont entendu une religion apostate leur prêcher n'importe quoi, leur disant de prêcher les morts, leur disant de prêcher de prier les saints, de prier la Vierge Marie, de prier pour ceux qui sont dans le purgatoire. Et il n'y a pas que vos ancêtres, tous les Africains, tous les Australiens, tous les gens d'Asie, tous ces gens qui vivaient, n'est-ce pas, sur le continent américain, tous ces gens-là n'ont pas entendu véritablement l'Évangile pendant des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Et le message d'Élie qui est envoyé à la fin des temps vient afin que nous puissions avoir le cœur rapproché, que nos cœurs se rapprochent de nos ancêtres afin qu'ils puissent être sauvés. Nous avons quelque chose à faire pour que ces gens-là, qui n'ont jamais entendu de leur vivant l'évangile de Jésus-Christ, ou qui l'ont entendu tordu, qui l'ont entendu corrompu par les fausses religions, que ces gens-là puissent être malgré tout sauvés, bien que morts. Vous allez me dire, mais Michel, qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Écoutez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je sais que pour beaucoup c'est nouveau, mais écoutez. Tous se réclament de la Bible, mais chacun a sa propre idée au sujet de tout ce qui se trouve dans la Bible. C'est ainsi que des milliards de personnes sont mortes sans être au bénéfice du sang de Jésus-Christ. Tous ces gens sont allés en préjugement et sont descendus dans le séjour des morts et ils attendent la résurrection et le jugement dernier. Vous savez bien qu'on dit qu'il y a un jugement dernier, ça veut bien dire qu'il y a un jugement premier. Quand vous mourrez, la première chose qui sera faite, vous serez mis à gauche ou à droite, c'est-à-dire vous serez mis dans le mauvais côté du séjour des morts ou dans le bon côté du séjour des morts. Le bon côté du séjour des morts, Jésus l'appelle le sein d'Abraham. D'accord ? Et il y a l'autre côté, là où sont mis ceux qui ne marchent pas correctement. Tous ces gens sont arrivés dans ce que Jésus appelle le séjour des morts, qui est divisé en deux. Seuls les saints, c'est-à-dire les gens sauvés, meurent et vont dans ce que Jésus appelle le sein d'Abraham. Pour pouvoir y entrer, il faut être en ordre avec Dieu. Or, personne ne peut l'être sans effusion de sang. Sans effusion de sang, pas de salut. C'est ce que la Bible dit. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu exigeait des sacrifices d'animaux. D'accord ? Donc, des gens qui étaient sous l'Ancienne Alliance pouvaient être sauvés en pratiquant la loi de Moïse et en bénéficiant des bienfaits, des sacrifices offerts à Dieu, des sacrifices sanglants. Bien. Depuis la venue de Jésus, c'est par le sang précieux de Jésus versé à la croix que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés, le pardon de nos péchés. Nous pouvons être sauvés et aller dans ce que Jésus appelle le sein d'Abraham, c'est-à-dire le bon côté du séjour des morts en attendant la résurrection. Notre corps reste sur la terre, il pourrit, notre esprit s'en va dans cet endroit, du bon côté du séjour des morts, et au jour de la résurrection, notre corps va sortir de la tombe et sera réuni à notre esprit, et nous serons ressuscités et nous paraîtrons devant Dieu pour les récompenses. Ceux qui sont du mauvais côté du séjour des morts, leur corps sortira de la poussière, ressuscitera, sera rétabli avec leur esprit, et ils paraîtront devant Dieu pour être jugés. Et là, ça sera des milliards et des milliards et des milliards. Vos arrière-grands-pères, vos arrière-grands-mères, vos grands-oncles, vos grandes-tantes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui ont vécu sans écouter véritablement Jésus annoncé correctement, et toutes ces personnes, ces millions d'Africains, ces millions d'Australiens, ces milliards de Chinois et d'Indiens, et tout cela vont être envoyés en enfer. Vous croyez ça? Non. Élie est venu pour apporter un message qui permet à nous, les fils d'aujourd'hui, de pouvoir atteindre le cœur de nos pères, de nos ancêtres, de tous ceux qui ont vécu sur cette terre, de peur que, si ce message n'est pas entendu, la terre entière soit frappée d'interdits et de destruction. C'est-à-dire, tous ces gens vont être détruits, à moins que le message d'Élie soit pris au sérieux. Donc, des milliards de personnes au travers des millénaires sont passées de la vie sur la terre directement dans le séjour des morts et non dans le sein d'Abraham. Tous ces gens sont morts, ont été jugés quant à la chair et placés dans le séjour des morts en attendant le jour du jugement dernier. Dans le séjour des morts, les gens ont conscience d'être perdus, c'est un endroit de souffrance, c'est un endroit de tourment, ça n'est pas encore l'enfer, ça n'est pas les temps de feu. Les temps de feu, c'est après le jugement dernier. Là, ils seront, le séjour des morts, la mort et tous les impies et le diable et tout le monde, tout cela seront jetés dans les temps de feu. Mais pour le moment, c'est pas un enfer, le séjour des morts n'est pas l'enfer. Ils sont dans un lieu d'attente, ils attendent le jour du jugement dernier. J'espère être clair, je fais de mon mieux pour être clair. La Bible nous dit que l'enfer est préparé pour le diable et pour ceux qui l'ont suivi. C'est pas le diable qui commande en enfer. Le diable sera brûlé là-dedans et tous ceux qui l'auront suivi. Mais pour le moment, personne n'est en enfer. Personne n'est dans les temps de feu. Les premiers à y être jetés, ce sera l'Antichrist et le faux prophète. Là. Enfin, vous voyez tout ça dans l'Apocalypse. Pour le moment, il n'y a personne. Ils sont tous dans le séjour des morts, dans le bon côté ou dans le mauvais côté du séjour des morts, en attendant la résurrection. Ceux qui seront précipités dans les temps de feu, ça n'arrivera qu'à la toute fin, après le jugement dernier. Pour le moment, les milliards de morts sont dans un endroit sinistre où ils éprouvent des tourments. Celui d'être perdu, séparé de Dieu, à cause de leurs péchés, ces gens en ont conscience. Ces gens, ces esprits, tous ces gens sont des gens qui ont vécu sur la terre depuis le début de l'histoire humaine. Il y a là tous les Gaulois, tous les Vikings, les Ostrogoths, les Africains, les Asiatiques, les Arabes, les Australiens, les gens de tous les continents, de tous les siècles, de tous les millénaires, ils sont là parce qu'ils n'ont jamais été au bénéfice du sang des animaux qui étaient sacrifiés en Israël, parce qu'ils n'ont jamais été au bénéfice du sang précieux de Jésus qui était versé sur la croix, parce que personne n'a pu aller leur prêcher. Et ce sont des gens, tous ces gens-là, vos ancêtres sont là-dedans. Ça ne vous touche pas, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez pas croire une bonne nouvelle comme ça, que vos ancêtres peuvent encore être sauvés. Écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est important pour vos ancêtres. Sans vos ancêtres, vous ne seriez même pas là. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Le ministère d'Élie, c'était de rapprocher le cœur des fils vers leurs ancêtres, vers leurs pères, et celui des pères vers leurs enfants. Des gens de toutes les époques, qui nous ont précédés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si Élie n'était pas venu, ce serait une destruction totale pour tous ces gens. Pourquoi? Parce que le Père a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Destruction, séparation d'avec Dieu, enfer. Mais Dieu, dans son plan, a prévu quelque chose. Quand Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts et il y a prêché l'évangile. Alors, beaucoup de gens me disent, oui, mais Jésus dit que Lazare est le riche et tout ça, et il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas, de correspondre, il n'y a pas de possibilité entre le séjour des morts et le sein d'Abraham, il n'y a pas de... Ça, c'était au temps de Jésus, mais depuis que Jésus est venu, Jésus a fait une chose, il est allé dans le séjour des morts, il y a prêché l'évangile, ceux qui ont cru dans ce qu'il a dit, il les a pris avec lui, il les a emmenés dans les hauteurs, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham, dans le paradis, si vous voulez, pas vraiment dans le paradis, mais dans le bon côté du séjour des morts, et puis il a pris les clés du séjour des morts, maintenant il est le maître de tout. Une porte a été ouverte par Jésus-Christ. Il y est allé lui-même. Il y a prêché à une partie des morts qui se trouvaient là, à ceux qui avaient vécu au temps de Noé. Pourquoi ça? Parce qu'il l'a voulu. C'est lui quand même qui décide ce qu'il fait, n'est-ce pas? Vous n'allez pas lui dire qu'est-ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire. C'est écrit qu'il l'a prêché à ceux qui avaient vécu au temps de Noé et qui avaient été rebelles. 1 Pierre 3, 18, 19, on va le lire. Christ aussi a souffert, je vous lis à partir du verset 18. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Voilà ce qui est écrit dans vos Bibles, dans ma Bible. Il va falloir m'expliquer ce que ça veut dire, ça. Si ce n'est pas ce que je vous dis, il faut m'expliquer ce que ça veut dire alors. Est-ce que vous croyez ce qui est écrit dans la Bible ? Est-ce que vous croyez que l'esprit de Jésus, alors que son corps était dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, est-ce que vous croyez que l'esprit de Jésus, pendant ce temps-là, est allé prêcher à ces esprits en prison, dans le séjour des morts, à ces esprits qui avaient été rebelles au temps de Noé ? Vous êtes bien obligé d'y croire, puisque c'est écrit. Voyons ce texte sacré. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Qu'est-ce qu'il a prêché ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce qu'il est allé faire une proclamation, mais il a prêché quoi ? Alors, c'est juste un petit peu plus bas, il suffit, le texte que je vous ai lu là au sujet de Jésus qui prêche à ceux de l'époque de Noé, ça se trouve dans 1 Pierre 3, 18, 19, et puis il y a quelqu'un, un gros mariole qui a mis chapitre 4, hein, Pierre n'avait pas de chapitre 4, il a écrit une lettre, hein, c'est quelqu'un qui a mis chapitre 4, alors chapitre 4, c'est-à-dire quelques lignes plus bas, au verset 6, voilà ce qui est dit. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas vivent selon Dieu par l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, on va le voir. L'évangile a aussi été annoncé aux morts. Cela signifie que l'évangile est annoncé aux vivants, ici-bas sur terre, et aussi aux morts. Vous voulez pas croire, mais ça vous regarde. Ça vous dérange parce que c'est pas dans votre religion, et vous voulez pas avoir des problèmes avec votre religion. Ben vous en aurez pas avec votre religion, mais vous en aurez avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle là, c'est la Bible qui parle là. Et c'est la Bible qui dit que l'évangile a aussi été annoncé aux morts. Par qui ? Par Jésus lui-même. Ça signifie que l'évangile est annoncé aux vivants ici-bas sur terre et aussi aux morts. Si vous ne croyez pas ça, il faut arracher la page de votre Bible. Hein. Qui étaient ces morts à qui Jésus a parlé ? C'était des gens qui avaient vécu sur la terre au temps de Noé, comme je vous l'ai dit, et qui avaient été rebelles au temps de Noé, qui n'avaient pas cru Noé, ou qui n'avaient pas entendu parler de Noé ni de son arche, parce que tout le monde ne vivait pas autour de Noé à l'époque. Il y avait des gens qui étaient à des milliers de kilomètres, qui n'ont jamais entendu parler de Noé, puis d'un coup le déluge est venu, puis il les a emportés tous. Et puis ces gens étaient dans le péché, voilà. Bon, alors Jésus est allé prêcher à ces gens. Alors ensuite, le déluge est arrivé, et ils sont tous morts. Et ils ont été jugés quant à la chair, c'est-à-dire d'après ce qu'ils avaient fait, d'après ce qu'ils n'avaient pas fait, le bien, le mal. Ils ont été jugés selon leurs actes, et ils ont été placés, après avoir été jugés et trouvés indignes, ils ont été mis du mauvais côté, du séjour des morts. Ils ont été placés dans le séjour des morts, dans ce lieu sinistre où il y a des pleurs, des grincements de dents, puis voilà, ils attendaient le jugement dernier. Et voilà, tout à coup, une grande lumière arrive dans ce séjour des morts, c'est Jésus en personne, l'Esprit de Jésus qui arrive et qui prêche. Quoi ? L'Évangile. C'est ce qui est écrit. L'Évangile est aussi annoncé aux morts. Jésus n'a pas été proclamé n'importe quoi, il a proclamé l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut. À qui ? Aux morts. Et voilà que Jésus arrive dans ce lieu sinistre, il prêche l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Pour qui ? Pour ces gens-là, pour cette catégorie de personnes-là, il laisse les autres de côté, mais il prêche à ceux-là. Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Quelle bonne nouvelle il leur prêche ? Eh bien, il leur prêche qu'il a tout accompli pour leur salut, pour le salut de quiconque croit en lui. Et là, dans le séjour des morts, ceux qui ont cru ce que Jésus viennent prêcher là, dans le séjour des morts, ils reçoivent la vie, c'est écrit. Voilà ce qui est écrit. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés quant à la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Ils ont reçu la vie. Les morts, là, ont reçu la vie, c'est-à-dire qu'ils ont reçu Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est la vie, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, là, dans le séjour des morts. Vous ne me croyez pas? Alors arrachez cette page de la Bible. Ou alors donnez-moi l'interprétation, dites-moi ce que ça veut dire. Je crois que vous avez... Personne n'en parle, jamais. Enfin, si quelques personnes en parlent. Ceux qui ont cru ce que Jésus a prêché dans le séjour des morts et qui ont, ils ont donc reçu la vie, c'est ce que ce texte sacré nous dit. Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ce moment-là? Eh bien, on le trouve dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 7 à 10, je vous le lis. Il est écrit « Il est monté », c'est-à-dire Jésus, « Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, dans d'autres versions c'est des captifs, des gens qui étaient prisonniers, des gens qui étaient captifs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est pas écrit « il est descendu sur la terre », c'est écrit dans les régions inférieures de la terre. Le séjour des morts étant dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Donc, quand ces gens dans le séjour des morts ont entendu l'évangile, ceux qui ont cru ce que Jésus a prêché là, dans le séjour des morts, ils ont reçu la vie et Jésus est sorti du séjour des morts et il est allé dans les hauteurs, c'est-à-dire beaucoup plus haut que là, et il a emmené avec lui ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts, il les a sauvés. Jésus est sorti du séjour des morts en emmenant avec lui des gens qui étaient là prisonniers depuis le temps de Noé, depuis le temps du déluge. Ça s'est passé dans les régions les plus basses de la terre, dans le séjour des morts. Vous ne croyez pas ce que la Bible dit là? Alors déchirez aussi cette page. Il ne va plus vous rester grand-chose. Hein. Quand il était sur terre, Jésus a dit tout ce qu'il a fait, il a dit que tous ceux qui croiraient en lui, ils feraient la même chose. Et même encore des choses plus grandes. C'est écrit dans Jean 14, 12. Alors, tant que nous sommes sur la terre, vous êtes sur la terre, je suis sur la terre. Tant que nous sommes sur la terre, nous faisons les choses qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait, il pardonnait, il était honnête. Il priait le Père, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il prêchait aux vivants, et il a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'aime, je pardonne, je suis honnête, je prie le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, je guéris les malades en son nom, je ressuscite les morts, je prêche aux vivants, j'adore Dieu, je chante des cantiques, voilà, tout ce que Jésus faisait, je le fais. Le faites-vous? Si vous ne le faites pas, ce n'est pas ma faute. Hein. Vous n'avez pas ressuscité le mort encore. Vous attendez quoi? Jésus a dit de le faire, faites-le. Vous n'avez pas guéri de malade, mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Vous attendez d'avoir une carte de pasteur pour aller imposer les mains aux malades? Jésus a dit, tous ceux qui croiront en mon nom, ils feront ces choses. Vous croyez en son nom, faites-le. Tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, et même encore des choses plus grandes. Bref, tout cela, moi je l'ai fait, pas vous. Et je continue à le faire. Vous devriez le faire, puisque Jésus a dit que vous pouvez et que vous devez le faire. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. C'est clair, c'est Jésus qui parle, c'est pas Michel Chanton, c'est Jésus. Et si vous voulez rester dans votre religion peinard, assis bien confortablement sur votre petite chaise, avec votre petit culte, et puis ensuite retourner chez vous et vivre comme vous voulez, puis retourner le dimanche d'après, faire vos petites réunions, et puis si vous voulez pas, n'est-ce pas, avoir des problèmes avec votre pasteur, ben continuez comme ça. Mais vous aurez des problèmes avec Dieu, parce que maintenant vous savez la vérité. Et la vérité, Dieu vous demandera les comptes. Pourquoi est-ce que tu n'as pas cru ce qui t'était prêché? Parce que tu avais peur d'être dérangé dans ta petite vie de bourgeois chrétien? Michel, tu es dur, mais bien sûr que je suis dur, je suis obligé de parler fermement. Les gens dorment, ils dorment. Les vierges sages dorment, les vierges folles dorment, on est entouré d'une bande de somnambules. C'est pourquoi je parle fort. Et puis un jour, nous mourrons. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va mourir? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez mourir? Vous avez déjà pensé ça? Eh bien, vous allez continuer à faire ce que Jésus a fait. Et lui, il est allé, tout de suite quand il est mort, la Bible nous dit, il est allé pendant 3 jours et 3 nuits pour prêcher dans le séjour des morts. Ben moi, je le ferai aussi. Et vous le ferez aussi. Vous voulez pas? Mais vous le ferez quand même. Là, vous serez contraint de le faire. Parce qu'un ange va vous emmener là, dans le séjour des morts, pour que vous prêchiez l'évangile. Et que vous sortiez de là avec des gens que vous aurez convaincus par votre prédication. Eh oui! Tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, et même des choses plus grandes. Parce que vous ne vous occuperez pas qu'une petite partie de ceux qui ont vécu du temps de Noé, vous vous occuperez, je ne sais pas moi, ceux d'une équipe qui a vécu sous Louis XVI, ou d'une équipe qui a vécu des Ostrogoths, ou je ne sais pas quelle peuplade d'aborigènes, ou je ne sais pas. Mais Jésus vous en révéra prêcher aux morts, aussitôt que vous allez mourir, vous allez être emmené dans le séjour des morts pour y prêcher l'évangile. Parce que tout ce que Jésus a fait, vous ferez aussi. Il est allé prêcher pendant 3 jours et 3 nuits, vous y resterez au moins 3 jours et 3 nuits. Peut-être plus, puisque Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes, vous resterez peut-être 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas. En tout cas, vous irez. J'irai. Il a ensuite emmené avec lui des gens qui l'ont cru et qui étaient captifs dans le séjour des morts. Eh bien, je le ferai aussi. Moi, ici-bas sur la terre, j'ai l'habitude d'emmener des gens qui sont dans le péché, je les emmène, au salut, à recevoir Jésus-Christ, à être rempli de l'Esprit. J'ai l'habitude de faire ça et de prêcher aux gens afin qu'ils comprennent l'Évangile. Eh bien, quand j'arriverai dans le séjour des morts, ça sera facile pour moi de continuer à faire ce que j'ai fait sur la terre. Ah, pour vous, ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Vous qui n'osez même pas aller donner un tract dans la rue. Pardon, je suis dur, mais il faut bien vous réveiller un peu. Vous ferez ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est tout. Si Jésus dit que tout ce qu'il a fait, vous devez et vous pouvez le faire, alors c'est que c'est vrai. Bien sûr, voilà, c'est comme ça. Bien. Si vous ne croyez pas ça, vous n'allez pas croire le reste de ce que je vais vous dire maintenant. Élie est donc venu. Et pour le savoir, vous allez écouter les 9 prédications que j'ai intitulées Pierre de Daniel, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la 9, et là vous aurez toutes les explications. Donc Élie est venu, il a ouvert la porte à cela, à cette chose extraordinaire, et maintenant les pères et leurs enfants sont rapprochés, comment? Par un acte qui se faisait dans l'Église primitive et qui ne se fait plus dans votre Église. Qui ne se fait plus dans l'Église apostate d'aujourd'hui. Paul, lui, y croyait ça, mais vous n'y croyez pas. Paul parlait de ça, mais votre pasteur n'en parle jamais. Et il prétend prêcher le plein évangile. Pardon, je dois être gentil. Mais il faut dire la vérité. Paul prêchait des choses que votre pasteur ne prêche jamais. Un jour, Paul a pris sa plume, et il a écrit une lettre aux chrétiens qui habitaient Corinthe. Et il a tout fait, et il a tout écrit, il a écrit tout ce qu'il pouvait, donnant toutes les preuves possibles à ces gens de Corinthe pour leur montrer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il a fait tout un chapitre là-dessus, au sujet de la résurrection, de l'authenticité, de la véracité, de la résurrection de Jésus. Et pour donner du poids à ce qu'il écrit, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, à quoi cela sert-il de se faire baptiser pour les morts? 1 Corinthiens 15-29. On va le lire. 1 Corinthiens 15-29. 1 Corinthiens 15-29. Alors il parle au sujet de tout ce chapitre 15, c'est au sujet de la résurrection de Jésus. Et il en arrive au verset 29, et il dit, s'il en était autrement, c'est-à-dire si Christ n'est pas ressuscité, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Il n'est pas en train de dire que c'est une bande de fanatiques hérétiques qui se font baptiser pour les morts. Non, il ne dit pas ça. Il dit qu'ils ont raison de le faire. Puisque Christ est ressuscité, il faut se faire baptiser pour les morts. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors ça ne sert à rien de se faire baptiser pour les morts. Mais comme Christ est ressuscité, alors c'est bien de se faire baptiser pour les morts. C'est ça que je lis. C'est ça que vous lisez aussi. Il n'est pas en train d'être contre le baptême pour les morts. Pas du tout. Il est simplement en train de dire que comme Jésus-Christ est ressuscité, c'est bien de se faire baptiser pour les morts, parce qu'il y a un espoir pour eux aussi. Quel espoir ? Ben, l'évangile leur a été prêché. Ils ont reçu l'évangile. Et ben, maintenant, ils doivent être baptisés. Mais ils ne peuvent pas être baptisés, ils n'ont pas de corps. Et c'est à vous de vous faire baptiser à leur place. Il y avait, au temps des apôtres, des chrétiens qui se consacraient à ce ministère. Tous ne se faisaient pas baptiser pour les morts. Comme tous n'étaient pas apôtres, tous n'avaient pas le don de prophétie, tous n'avaient pas ceci, tous n'avaient pas cela, mais il y en avait qui se consacraient à cela. C'est pourquoi il dit, s'il en était autrement, c'est-à-dire si Christ n'est pas ressuscité, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Donc il y avait des gens qui se faisaient baptiser pour les morts, et l'apôtre Paul n'est pas contre, ils disent, ils ont bien raison. Puisque Christ est ressuscité. Et votre idée à ce sujet n'y changera rien. L'idée de votre bon pasteur à ce sujet n'y changera rien. C'est comme ça. Quand les apôtres sont morts, l'Église est entrée petit à petit dans l'apostasie, c'est-à-dire elle a abandonné la vérité au profit d'inventions telles que le purgatoire et des âneries et des bêtises que les gens ont pris pour la norme. Mais c'est faux. La vérité, c'est là, dans votre Bible. Et maintenant, Jésus veut rétablir cette vérité dans son Église. Il y est venu pour rétablir la vérité et donner la clé, c'est-à-dire le pouvoir de comprendre et de faire ce qu'il faut afin que la terre ne soit pas frappée d'interdit ou de destruction. Vous voyez, il y a plusieurs versions. C'est-à-dire que tous ces morts puissent être sauvés avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Luc, il savait qu'après après la mort des apôtres, l'Église apostasierait. Il le savait. C'est pourquoi il dit que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Actes 3, 19, 20. Si les choses doivent être rétablies, c'est parce qu'elles ont été perdues, oubliées, elles ont été corrompues, elles ont été bouleversifiées, elles ont été perdues. Les églises ont perdu le message total de l'évangile qui était prêché au début. Et maintenant, Jésus va revenir quand ça sera le temps du rétablissement de ces choses. Maintenant, c'est le temps du rétablissement de ces choses. Nous sommes dans ce temps-là. Martin Luther, le réformateur allemand, il a commencé à restaurer certains points, comme le salut par la foi, et puis d'autres ont suivi, mais ce n'était pas encore le rétablissement, c'était une réforme. Il y a une différence entre une réforme, une restauration et un rétablissement. Maintenant, c'est le temps du rétablissement. Une réforme de l'Église, c'est bien, mais Dieu ne veut pas réformer l'Église, il veut la rétablir telle qu'elle était au commencement. Alors voilà, je vous ai tout dit. À la communauté, nous croyons ces choses et nous les pratiquons. Si vous voulez en savoir plus, écoutez donc les 9 prédications dont le titre est « La pierre de Daniel ». Vous apprendrez beaucoup de choses très simples là-dessus. Maintenant, si vous voulez que vos ancêtres soient en ordre, envoyez-nous leur nom, leur prénom, leur date de naissance ou la date de leur décès, afin que nous puissions, parce que nous avons un logiciel pour pouvoir classifier toutes ces choses, afin que nous ne fassions pas des doublons. Vous pensez, jusqu'alors, depuis que nous croyons ça, nous avons déjà fait 70 millions de baptêmes à la place des morts. Nous voulons éviter de faire deux ou trois fois le baptême d'une personne. C'est pourquoi nous notons un maximum d'informations sur chaque personne pour lesquelles nous nous faisons baptiser. Et envoyez-nous les noms et les prénoms de vos ancêtres ou des gens que vous connaissez qui sont décédés, qui sont morts sans Christ, et nous nous ferons baptiser à leur place. Parce que vos ancêtres et les gens que vous connaissez et qui sont morts sans Christ ont entendu l'évangile dans le séjour des morts. Tous vos amis qui sont décédés ont entendu l'évangile prêché dans le séjour des morts. Et maintenant, ils peuvent, ils ont pu recevoir, je ne sais pas s'ils l'ont reçu, s'ils ne l'ont pas reçu, l'évangile dans le séjour des morts, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est claire, ça ne suffit pas de recevoir l'évangile. Alors s'ils l'ont reçu, s'ils croient, maintenant, par la foi, nous allons nous faire baptiser à leur place en tant que leur substitut. S'ils ont reçu l'évangile de Jésus-Christ dans le séjour des morts, il leur faut le baptême parce que le baptême, c'est la condition pour le salut. Marc chapitre 16, verset 16. Vous n'y coupez pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas écrit celui qui croira et qui ira à l'église. C'est pas écrit celui qui croira et qui donnera sa dîme. C'est pas écrit celui qui croira et qui se coincera les doigts dans une porte. Non, c'est écrit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand les gens ont dit « Homme, frère, que ferons-nous ?» L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont été à la rivière et ils les ont baptisés dans l'eau. « Oh, mais Michel, ça, c'est un symbole, les symboles. Ah, vous voulez pas? Faites comme vous voulez. Vous êtes plus mariole que la parole de Dieu, vous êtes plus malin que moi, vous savez mieux que moi, c'est très bien, continuez comme ça. Vous allez faire une drôle de tête quand vous allez voir que c'était une exigence sainte. Mais pourquoi se faire baptiser? J'en sais rien. Jésus dit qu'il faut le faire, il faut le faire. » Ces pauvres personnes qui sont dans le séjour des morts, ces milliards de personnes qui sont dans le séjour des morts, reçoivent chaque jour le témoignage de Jésus-Christ au travers des chrétiens qui décèdent et qui vont prêcher. Là, dernièrement, lundi, je vais à l'enterrement d'une sœur, et c'est une femme de Dieu, c'est une femme qui aimait Jésus-Christ. Eh bien, pendant au moins 3 jours, elle est allée prêcher dans le séjour des morts. Elle a emmené des gens au salut. Eh bien, voilà. Il faut maintenant ils soient être baptisés, puisque c'est croire et être baptisé. Ils ne peuvent pas être baptisés. Alors nous le faisons à leur place, parce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et que nous ressusciterons, mais nous ne ressusciterons pas sans eux, sans toutes ces personnes qui sont là dans le séjour des morts. Et nous avons quelque chose à faire pour cela. L'apôtre Paul nous dit, puisque Christ est ressuscité, nous nous faisons baptiser pour les morts. Et si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien de se faire baptiser pour les morts. Est-ce que vous voyez la chose? Bien sûr, si vous allez demander à votre pasteur pentecôtiste, ou à votre pasteur baptiste, ou à votre pasteur luthérien, ou à votre pasteur calviniste, ou à votre curé, ou à que sais-je, il vous dira que c'est une hérésie. Croyez-le! Vous serez, comme ça, vous serez plus dérangé, vous serez tranquille, vous pourrez ronfler tout ce que vous voudrez dans votre petite église, avec les petits problèmes de votre petite église et de votre petite histoire, et ça sera très bien, il n'y aura rien, j'aurai juste fait une petite vague, et puis c'est tout, et puis vous m'oublierez, et puis ça sera terminé. Mais le jour où vous serez devant Dieu, vous allez dire, waouh, pourquoi je n'ai pas écouté ça? Vous pouvez participer au salut de milliards de personnes. Ils n'ont plus de corps, ils ne peuvent pas être baptisés là où ils sont. C'est à nous de le faire en tant que leur substitut. À la communauté, nous avons une équipe qui s'est consacrée, qui a été consacrée à cela. Nous avons déjà fait plus de 70 millions de baptêmes à la place des morts. Nous faisons des recherches pour trouver des listes de gens décédés. Il y a des listes sur Internet, il y a c'est extraordinaire. Nos cœurs se sont rapprochés de nos pères, de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés sur terre. Ainsi, la terre ne sera pas complètement placée sous interdit et frappée de destruction. Parce que Élie a donné ce message. Il a rapproché le cœur des pères de celui des enfants et le cœur des enfants de celui des pères. D'autres chrétiens le font aussi, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Mais vous, allez-vous croire ce que je vous ai dit? Pensez à ceux que vous avez connus et qui sont passés de vie à trépas sans avoir fait la paix avec Dieu. Et dites-vous, si ce que Michel dit est vrai, si ce que je viens de voir dans la Bible est vrai, est-ce que je vais pouvoir dormir tranquille ou est-ce que je ne vais pas faire plutôt des cauchemars? Vous pouvez prendre part à leur salut en nous envoyant leur nom afin que nous accomplissions cet acte du baptême qui leur manque. Voilà, je prie que le Saint-Esprit vous révèle que ces choses sont vraies. Pour ma part, je témoigne au nom du Seigneur Jésus-Christ et sur la Sainte Bible que ces choses sont vraies. Priez le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit vous révèle que c'est vrai. Mais déjà, vous avez quelque chose dans votre cœur qui vous dit que c'est vrai. Alors agissez en conséquence. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, je vous avais dit que ça serait une prédication importante. Vous êtes impliqués maintenant. Vous ne pourrez plus être la même personne peinard dans l'Église. Il va falloir faire des recherches. Pas simplement vos ancêtres, mais imaginez un peu les ancêtres de votre épouse ou de votre époux, de l'époux, de l'épouse, de l'époux, des épouses, de toute votre... Ça fait des lignées, ça fait vite beaucoup, 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 beaucoup de monde. Ça va très vite. Il va falloir faire des recherches. Ou alors il va falloir être dans l'insouciance, se disant, oh ben bon, tout ça c'est pas vrai, c'est encore une histoire à Michel Jonton. J'espère que vous aurez un peu plus de sérieux que cela et que Dieu vous bénisse. J'ai confiance dans le Seigneur que quelques-uns au moins de ceux qui sont venus écouter ce message croiront ces choses. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de parler, de dire ces choses encore une fois. Veuille bénir ces personnes qui l'ont entendu, qui le réécoutent afin que cela entre bien dans leur conscience et qu'ils puissent se mettre en ordre avec toi en faisant les choses qu'ils doivent faire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir.